Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. On va commencer par la prière. On va demander à l'Esprit Saint de parler à ma place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint. Accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même Esprit et de jouir toujours de sa consolation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Alors, est-ce que je dois redonner un petit peu le charisme de la garde d'honneur ou tout le monde, enfin les, je perçois juste une... Oui, vous voulez, ouais. Donc, alors c'est très simple, et comme je le dis souvent, mais pourtant c'est bien vrai, nous avons tendance à compliquer le charisme de la garde d'honneur. Le Seigneur demande qu'on pense à lui une heure dans la journée, et donc c'est ce qu'on appelle l'heure de présence, si possible, tous les jours à la même heure. Si on oublie, on supplée au moment où on y pense, ce n'est pas un péché. Hein. Donc il ne s'agit pas de s'en confesser. Et puis pendant cette heure, on va tout particulièrement penser à Jésus présent au tabernacle, et on le verra pourquoi tout de suite là. Parce que la présence eucharistique, c'est le cœur de Jésus. Et pendant cette heure, on va offrir tout ce qu'on a fait. Donc on débute cette heure en priant la prière d'offrande au cœur de Jésus. Ce qui veut dire que tout ce qui va se faire et tout ce que vous allez faire pendant cette heure a été offert au début de votre heure. Donc, à moins d'une grâce particulière, on ne peut pas penser en permanence à Jésus pendant ce qu'on fait pendant cette heure. Hein. Et si par exemple quelqu'un sonne pendant votre heure de présence à votre porte et que vous lui dites bah, « écoutez, revenez dans une heure parce que moi je vis mon heure de présence, je ne suis pas disponible, je ne pourrais pas penser à Jésus », je crois que vous avez mal compris le charisme. Donc non, quelqu'un frappe à la porte, je l'ouvre, par contre ben voilà, je le confie au Sacré-Cœur et puis je vais être prise par la discussion. Et c'est bien normal, je vais donner toute mon attention à la personne qui vient de frapper à ma porte, et du coup il est bien possible que j'oublie le Seigneur pendant ma discussion quoi. Mais elle a été confiée cette discussion avant même qu'il frappe, ça c'est sûr, mais le Seigneur savait qu'il y avait quelqu'un qui allait frapper à votre porte, et donc cette conversation elle était offerte au Sacré-Cœur pour le consoler de vos ingratitudes, de nos ingratitudes, hein. Alors celles du monde entier, mais il faut d'abord penser à soi. En attendant, et c'est bien normal de prier pour la conversion des pécheurs, mais il faut se mettre dedans. Hein. Parce que le monde changera, enfin, moi j'y crois beaucoup. Du moins, j'essaie de vivre ma vie religieuse de cette manière, à partir du moment où je changerai. Hein. Et on attend souvent, et on se lamente bien souvent sur le monde, alors que on ne lève pas son petit pied pour autant, nous autres. Hein. Donc voilà. Donc voilà le charisme, c'est simple, hein. Donc il faut pas... Et souvent j'entends, je choisis de 10h à 11h, parce que comme ça je serai à la messe. Ah ben non, attention, le Seigneur en parlant à Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot, en lui proposant hein, cette association, eh bien il voulait, dans la démarche, c'est de penser le plus qu'on peut à Jésus dans ce qu'on fait. Donc, pendant la messe, si vous n'y pensez pas, alors là, c'est navrant, quoi. Donc, il faut plutôt choisir une heure où, et ça, c'est ce que disent les enfants, moi, je choisis l'heure à laquelle je vais avoir le plus de mal à penser à Jésus. Donc, il y en a qui ont du mal à se lever, ou au retour de l'école, voilà, ou une matière qui est plus difficile. Voilà, ça peut donner une idée, enfin, aider pour trouver son heure de présence. Je crois beaucoup... que l'heure de présence, elle est quelle heure choisir? Il y en a beaucoup hein, d'entre vous qui choisissent de 15h l'heure de miséricorde, pourquoi pas. Mais beaucoup choisissent, beaucoup, enfin pour moi je pense que c'est la Vierge Marie qui nous susurre dans le cœur l'heure à laquelle le Seigneur veut qu'on se donne, qu'on se rende présent. Ça nous vient d'en haut et pas obligatoirement. Alors ça passera par des calculs humains, bien sûr, hein, par des un caractère tout à fait humain, c'est-à-dire ben voilà, de telle heure à telle heure, je suis mon mari rentre et puis c'est plus difficile pour l'accueillir, par exemple. Eh bien, c'est sûr, ça passe par voilà, ces petites choses-là. Mais ceci dit, ça vient d'en haut. Voilà. Voilà pour le rappel. Alors, toujours dans un. Je vais sûrement faire encore un autre appel, et encore que. Le 28 juin, nous allons vivre la solennité du Sacré-Cœur. Et je me disais, ce serait bien avant de. Pour une, comme on a la rencontre avant la fête du Sacré-Cœur, de vous relire l'article 6, hein, qui, pour bien mesurer enfin, comment nous sommes invités à vivre cette solennité du Sacré-Cœur. L'article dit « La fête liturgique du Sacré-Cœur de Jésus, demandée par Jésus lui-même à Sainte Marguerite Marie », donc je vais vous relire, parce que autant demander à Jésus ce qu'il veut qu'on fasse, pour solenniser cette fête, comme ça on est sûr de ne pas être à côté. Donc, est la fête principale de l'œuvre. Hein. Donc, les associés la célèbrent avec ferveur et très solennellement. Ils s'y disposent autant que possible par une neuvaine ou un tridium préparatoire au cours duquel ils recevront le sacrement de réconciliation. Donc, nous sommes tous invités à recevoir le sacrement de réconciliation avant le 28 juin. Et puis, alors, pour la visitation de Nantes, on aura la grâce cette année d'avoir l'abbé Harel qui va être ordonné prêtre, le 23, jour de la fête Dieu à la cathédrale. Donc, la fête du Sacré-Cœur sera solennisée. Il célébrera sa première messe, hein, une de ses premières messes. Voilà, donc il y aura le Saint-Sacrement exposé toute la journée. Et puis voilà, je vais vous lire qu'est-ce que notre Seigneur dira à Sainte Marguerite Marie. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, dit la Sainte, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et me sentis touchée du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. Et il me dit, tu ne m'en peux rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. Là, elle faisait la sourde oreille, hein, la Sainte Marguerite Marie. Alors me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là. Donc on est donc invité à communier. Et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable. Donc aura lieu à l'issue de la messe une amende honorable. Pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de ce divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Donc si vous faites de la publicité, voilà, vous aurez une bénédiction de la part du Sacré-Cœur. Mais la Sainte Marguerite Marie, et ça on pourrait tous le dire, parce que nous on bénéficie de son combat hein, qui a permis à la Sainte Église de nous donner cette fête. Mais Monseigneur, à qui vous adressez ? À une si chétive créature et à une si pauvre pécheresse que son indignité serait même capable d'empêcher l'accomplissement de votre dessein. Vous avez tant d'âmes généreuses pour exécuter vos desseins. Alors on peut avoir la même attitude intérieure quand on va prier l'amende honorable, hein, qui on est pour réparer les outrages. Est-ce qu'on peut dire que nous autres, moi la première, je communie toujours avec la ferveur souhaitée, parce qu'il se plaint quand même hein, de tous les irrévérences et sacrilèges qu'il reçoit au Saint-Sacrement de son amour, donc toutes les expositions qui sont faites sur les autels. Et quoi lui dit ce divin sauveur ? Ne sais-tu pas que je me sers des sujets les plus faibles pour confondre les forts, et que c'est ordinairement sur les plus petits et pauvres d'esprit sur lesquels je fais voir ma puissance avec plus d'éclat, afin qu'ils ne s'attribuent rien à eux-mêmes. Et j'avais une sœur hier à la récréation qui vous racontait une histoire. Je me dis, tiens, je vais la raconter aux gardes d'honneur pour les aider à prendre conscience de la valeur. Les saints nous sont donnés pour ça. C'était donc c'est Josefa Menendez, donc là aussi hein, une dévote au Sacré-Cœur. et qui raconte que donc les sœurs, si vous voulez, quand on fait des fautes par rapport à la règle, on s'accuse devant la communauté, ce qu'on appelle les culpes. Alors, ça ne se dit pas partout, bon, chez nous on continue de les dire. Et c'est pas un péché dont on s'accuse, hein. Par contre c'est vrai, ça nous donne un peu la racine du péché souvent. Alors par exemple, pour vous donner un peu une idée, comment dirais-je, ma mère, je dis ma culpe d'avoir levé les yeux dans les lieux réguliers par curiosité. Non, on est censé garder les yeux baissés dans les lieux réguliers, c'est-à-dire les cloîtres, tous les lieux où on est en commun, c'est-à-dire le réfectoire, les dortoirs. Et puis, voilà. Et alors, parce que, pourquoi ? Parce qu'on est fille d'horizon, et le fait de regarder partout, eh bien, va nous détacher de cette présence qui nous habite et à laquelle on se doit être présente. Alors, c'est une culpe, évidemment, c'est pas un péché, hein. Par contre, on peut après discerner le péché qui peut être derrière, la curiosité est peut-être à creuser là. Mais, donc, j'en reviens à ma culpe. Et donc, ça, Josefa Menéndez raconte, donc, elle disait ses culpes au noviciat. Et puis, elle voit, parce qu'elle était très attaquée par le malin. Je ne sais pas ce qui a été présent à l'assemblée des amis. Une personne nous avait présenté le président de l'association, Josefa Menéndez, qui a eu une vie extraordinaire et qui était très 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 attaquée par le diable jusqu'au point où il a kidnappé. Il l'emmenait en enfer et elle réapparaissait, des fois elle réatterrissait sur la terre sous une armoire. Elle a été malmenée, enfin je veux dire, et elle a vécu ça 3 ans, quelque chose de très... Elle était soutenue par la Vierge Marie, mais vraiment, et tout ça pour sauver les âmes. Hein, tout ça pour sauver les âmes, ceci dit, ce jour-là, elle disait culpe au noviciat. Elle voit le diable se promener entre les sœurs. Alors, elle lui demande, qu'est-ce qu'il fait là, quoi, pourquoi il est là? Et puis, à fur et à mesure que les sœurs disent leur culpe, selon les sœurs, il s'effondre, ou selon une autre, il reste droit, debout, et alors elle s'interroge. Et puis le diable lui raconte que quand la sœur dit sa culpe avec une véritable intention de cœur de s'humilier, ça l'effondre, hein, il perd ses forces. Quand une sœur l'a dit par habitude, et nous qui sommes cloîtrées contemplatives, c'est le grand truc, enfin c'est le grand défaut qui nous guette, hein, c'est l'habitude. Parce que voilà, tous les jours le même rythme, hein, le même horaire, eh bien ça lui fait rien. C'est pas le fait de dire qui va épuiser le démon, qui lui fait perdre ses forces, et Dieu qui se serait bien de lui faire perdre ses forces à l'heure actuelle, parce que la sœur le dit avec habitude, donc ça nous renvoie à l'intention avec laquelle on va faire, c'est pour ça que je la raconte cette petite histoire, dans quelle intention on va prier cette amende honorable, parce que c'est sûr que bon, voilà, enfin je veux dire, en tout cas moi j'y mets tout mon cœur, j'essaie, c'est un petit tuyau que je vous fais passer, de communier tous les jours en me disant c'est peut-être la dernière fois que je communie, parce que le Seigneur se plaint souvent qu'on va le chercher par habitude, mal préparé, et puis qu'il disait aussi à Sainte Faustine qu'il allait dans les cœurs à reculons, hein, quand on, vraiment pour lui c'était un sujet de torture, il allait dans les cœurs, pas obligatoire, alors bien sûr quand ils sont pas on n'est pas en état de grâce, mais quand voilà, on le confond avec une nourriture parmi les nourritures. Hein. Donc c'est ça nous voilà quand on entend la demande du Sacré-Cœur et puis qu'on verra, on vivra donc tous le 28 en cette solennité, on se dit ben voilà, enfin moi qui je suis Seigneur pour réparer tous les outrages, déjà les miens, mais sachez que vous êtes encore plus au courant que moi sûrement, mais à peu près toutes les semaines depuis janvier, il n'y a que profanation au niveau des églises et voire des tabernacles. Des hosties qui sont souillées, volées. Donc, voilà, on sait très bien qu'il y a la réparation aujourd'hui et que demande notre Seigneur. À son époque, il faut savoir ça aussi, mais ça dépasse tous les ans. Hein. Enfin, je veux dire, le Seigneur, quand il le demandera en 1675, il le demande encore en 2019. Eh bien, à Paris se vivaient les premières messes noires. Hein, quand il fera la demande à Sainte Marguerite Marie. Donc, elle n'est absolument pas au courant là, qu'il existait des messes noires. Donc, c'est toujours, toujours d'actualité. Donc, du coup, ça doit nous renvoyer à une grande ferveur du moins nous exciter à une grande ferveur pour recevoir tous les jours l'Eucharistie. Le 28, de solenniser cette fête, parce que nous sommes donc garde d'honneur, pourquoi pas de venir avec une amie dans chacune de nos mains, pour leur faire vivre cette grâce d'entrer dans son cœur. Parce que autant la fête du Saint-Sacrement que nous vivrons le 23 est une fête d'action de grâce pour le don de son corps et de son sang, autant la fête du Sacré-Cœur est une fête de réparation. Voilà, c'est les deux, et ce qui est très, très beau, le Seigneur demande que ce soit dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Donc ça a tout son sens. On rend grâce pour le don de sa vie, à travers son sang et son corps, et en même temps, le Seigneur nous sait tout à fait pécheurs et capables du pire, eh bien, il nous demande de réparer tout l'amour dont on ne lui donne pas. Voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse, mais en tout cas moi ça me fait du bien de me le rappeler, donc je pense que ça doit sûrement vous faire du bien aussi. on va poursuivre aujourd'hui. La dernière fois, si je remonte un petit peu, je vous avais présenté les trois premiers gardes d'honneur, la Sainte Vierge, Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean, en vous montrant un petit peu leur spiritualité qui nous faisait rentrer dans leur démarche oblative. Chacun et chacune était invité à choisir ou à se laisser guider par l'Esprit Saint pour savoir quelle était la démarche spirituelle. Est-ce que je me tiens en esprit au pied de la croix ou reposant sur son cœur ou faisant couler le sang précieux de Jésus sur l'humanité? Et je découvrais ces jours derniers que le Seigneur, dans le petit journal de Sainte Faustine, parlait de faire des actes de miséricorde en esprit. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est faire couler le sang précieux de Jésus sur le monde. Voilà, un acte de miséricorde en esprit. Parce qu'il dit à Sainte Faustine que tout le monde n'a pas les moyens de rendre un acte de charité au quotidien. Ce qui demandait à ce que les actes de miséricorde soient faits au quotidien. Alors, c'est pas parce que l'année de la miséricorde est terminée que c'est quelque chose de passé. Et c'est très, très en lien, l'icône que Sainte Faustine demandera à peindre de ces deux rayons sang et eau qui sortent du manteau de Jésus, donc du cœur. Et puis nous, la première icône du cœur de Jésus, donc c'est celle qui nous donne sur la croix quand on perce son flanc, donc le sang qui coule. Et à travers Saint Jean, on est donc invité soit à y reposer ou à faire couler ce sang. Et sachez que voilà, c'est en esprit, Mais je vous renvoie à ma petite histoire avec Josefa Menendez. C'est l'intention avec laquelle on fait couler le sang précieux qui donne la valeur à cet acte. Et je vous avais après parlé de la manière dont on était donc amené à vivre cette démarche oblative à travers nos eucharisties quotidiennes ou du dimanche. Et donc nous sommes invités à aller vivre en communion avec l'oblation du Christ, parce que les nôtres ne valent que si elles sont vécues en lien avec celle du Christ. Tout ce que vous vivez, c'est-à-dire tous les sacrifices, toute la part d'offrande que vous pouvez vivre de vos journées, si elle est vécue, je veux dire, non en communion avec celle de Jésus sur la croix, elle n'a aucune valeur. C'est pour ça que les contemplatives, quand elles prient les psaumes, on prend toutes les prières qui sont faites, mais qui sont pas obligatoirement adressées à Jésus. Toutes ces plaintes, tous ces cris, toute cette souffrance, quand on est amené à des fois aller dans les hôpitaux, on se rend compte de toute cette souffrance. Et combien aujourd'hui n'ont plus Jésus dans leur vie. Donc toute cette souffrance, elle n'est pas offerte. Donc c'est notre, en gros, aussi notre travail d'offrir à travers la prière de l'office divin tous ces cris, toute cette souffrance, et mais en lien avec Jésus, parce que sinon, ça n'a aucune valeur de rédemption. Et j'avais, abordé... à travers cette démarche eucharistique de nos journées, de vivre en communion avec Jésus présent dans son Eucharistie, comme on est amené à vivre notre heure de présence, on doit en esprit imaginer le tabernacle, se rendre présent au pied d'un tabernacle pour commencer notre heure de présence. Donc la valeur eucharistique dans notre offrande est essentielle. Et j'avais vu la dernière fois que la manière dont on vit nos journées, souvent, on n'est pas dans cette démarche oblative et eucharistique parce que, ben voilà, un événement vient nous percuter et puis on n'est pas, ben voilà, ça, on n'est pas prêt à le vivre, on le met de côté, ça nous percute trop et puis, on se ferme et du coup la démarche oblative dans laquelle on est invité à vivre, c'est pas uniquement quand on apprend la méga nouvelle, non, c'est le quotidien, c'est-à-dire les petits actes de la journée, hein, faire la cuisine, se lever, aller chercher les enfants ou les ramener, visiter un malade ou rester toute seule dans son appartement toute la journée en voyant personne. Voilà, un quotidien le plus banal possible. Eh bien, comment on va le vivre pour vivre justement notre messe tout le long de la journée. La messe ne... C'est pas juste de 10h30 à 11h ou de 9h30 à 10h, c'est elle doit, si on la vit en tout cas, on doit la vivre sur tout le long de la journée, donc vivre toujours dans cette démarche oblative du Christ qui s'offre en nourriture et on est amené à s'offrir avec lui pour sauver l'humanité, pour lui donner des âmes. Et donc j'avais vu avec vous, je voudrais reprendre ça et je terminerai aussi avec un texte de l'abbesse de l'abbaye de Saint-Michel de Kergonan pour vous montrer la valeur de ces petites choses quand elles sont vécues et la responsabilité qu'on a dans le plan de salut de notre Seigneur. Alors j'avais évoqué deux choses, le moment présent. Et puis, le coupe est court, on va dire, le combat spirituel. Donc, je voudrais réévoquer ça avec vous, parce que je crois qu'on avait terminé là-dessus. Et pour moi, je trouve que c'est essentiel, parce qu'on ne nous en parle jamais, parce que c'est tellement important qu'on ne le fait pas. Et puis, pour ma petite expérience d'accueil à l'intérieur des retraitantes, c'est, je dirais, le premier barreau de l'échelle quand on veut avoir une vie spirituelle, une vie intérieure avec le Seigneur. Si ça c'est pas mis en place, vous n'aurez jamais la paix au fond de vous-même et puis vous passerez vos temps à chercher Jésus et puis on voit bien qu'on n'avance pas dans la vie spirituelle, quoi. Alors le premier, c'est le premier, on va dire, volet, c'est le moment présent. L'importance du moment présent, souvent, et ça c'est, alors on n'est pas peut-être pas de cette génération-là, mais mine de rien on est quand même dans ce monde. Si vous faites un petit examen sur la manière dont vous vivez les événements, vous êtes en général jamais au moment présent. Vous n'êtes pas présent à ce que vous vivez. Soit vous êtes en arrière, soit vous êtes déjà projeté en avant. Tiens, je vais faire ça. Oui, mais je suis là avec mes enfants. Je suis en train de prendre le goûter avec eux. Donc, je ne suis pas déjà en train de préparer ma cuisine de ce soir. Hein. Mais en général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, il y a aussi ceux qui sont, comment dirais-je, dans le passé. Donc voilà, ah, c'était, qu'est-ce que c'était bien avant. Ou voilà, on essaie de garder la tête au-dessus de l'eau en se mémorant le passé. Alors, je dis pas que c'est, il y a des, au contraire, hein, il y a l'expérience. Moi, j'y crois beaucoup. Qu'il faut en tenir compte pour vivre l'avenir ou moins le présent. Mais c'est en somme, on a le passé est donné à sa miséricorde, le futur aussi à son amour. Il faut être là où on doit être, donc au moment présent. Et je vais vous lire une très très belle citation du père Victor Sillon qui campe très bien. Et pourquoi il faut être présent au moment présent ? L'instant présent est le point de rencontre de l'âme avec Dieu. Le point de contact avec la volonté divine, quelle que soit sa forme et son contenu. Il est, de par sa nature même, l'expression de la volonté de Dieu sur nous. Le moment présent est l'expression de la volonté de Dieu sur nous. Donc, je suis à faire quelque chose. Je me suis embarquée dans le ménage de mon appartement. Je ne tiens pas à être dérangée. Ben justement, quelqu'un frappe à la porte. Ah, il n'y a personne. Ah, eh ben non, le moment présent, c'est manifestation de la volonté de Dieu. Je peux dire, ça donne, ça nous fait, quand on prend conscience hein, de cette citation là que je vais continuer de dire, eh bien, je vous assure, on n'envisage plus le moment présent comme quelque chose qui va passer obligatoirement, ça c'est sûr. À cette minute précise, Dieu veut nous voir accomplir telle action qui bien souvent sera ni extraordinaire ni grandiose, mais banale et infime et dont la seule valeur sera d'être la volonté de Dieu. Mais précisément, cette volonté n'est-elle pas suffisante? Non seulement l'instant présent nous traduit la volonté divine, mais encore, il nous livre la présence de Dieu. Si à un tel moment le Seigneur nous demande d'être à telle place, accomplissant telle action, c'est parce qu'il nous attend là. Voilà. À ce point précis, nous le rencontrons et si nous le cherchons ailleurs, nous le manquerons. Voilà, donc ça englobe beaucoup de choses. Hein. L'expression de la volonté de Dieu dans le moment présent. Il se communique à nous dans le moment présent. Alors souvent on me dit, quelle est sa volonté, quoi? Il est dans le moment présent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, vous avez quelque chose à faire, un événement qui vous percute, une nouvelle qui vous est annoncée. C'est le moment présent. Hein. Alors je suis pas du tout contre, les neuvaines à Notre-Dame qui défait les nœuds. Mais j'en entends beaucoup parler. Je suis pas du tout. C'est très bien. Moi, tout ça, ce sont des moyens. Mais attention. La prière, même si notre Seigneur nous dit « Demandez, vous recevrez, hein, frappez, on vous ouvrira », c'est pour nous donner l'Esprit Saint, pour nous ajuster à sa volonté. C'est pas pour que l'événement qui me percute passe dans la moulinette, dans ma moulinette et devienne ma volonté. Et le père Guibert, hein, qui écrit pas mal sur ce sujet, dit « Il y a erreur de casting, et c'est sûr. Souvent, on passe la volonté de Dieu dans la nôtre, alors on se fait des nœuds. » Bah oui, Marie qui défait des nœuds, c'est clair. Pourquoi? Parce que, le Seigneur ne peut pas me demander ça, c'est pas possible, quoi. Le Seigneur prend la phrase, hein. Il est dans le moment présent, dans tout, sa volonté divine est manifestée dans le moment présent, dans ce qui nous arrive, et c'est surtout, et le plus important, c'est que dans le moment présent, dans la manifestation de cet événement, il y a Jésus. Alors quand on refuse l'événement, on se coupe de Jésus, on se coupe donc de la grâce, on se coupe donc du Saint-Esprit. Et toujours pareil, quand on dit oui à l'événement, un petit moyen pour illustrer mes propos, quelqu'un vient frapper à la porte et vous annonce quelque chose, ou vous recevez un courrier qui vous ébranle, je dis pas que c'est facile, hein, attention, hein, mais l'exercice c'est se dire... Comme dit Jésus à Gethsémani, parce que le combat, hein, ça veut dire aussi agonie. Donc l'agonie de Jésus, on est amené, nous, à le vivre tous les jours, dans tout ce qu'on vit, pour vivre ce moment présent. Jésus dira, pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, quand on ouvre, quand on nous apprend quelque chose, quand on en a marre de quelque chose, ou de quelqu'un, non pas ma volonté, Jésus, mais la tienne. Hein. Puis après, quand vous avancez, vous direz, merci Jésus. Et ça fait quoi? Ça fait que le cœur s'ouvre et l'Esprit Saint peut rentrer. Parce que c'est ça le don, hein, le don par excellence, l'amour de Jésus, que s'échangent le Père et le Fils, donne la troisième personne de la Trinité, que nous fêterons demain. C'est l'amour qui est le sanctificateur par excellence. Donc il ne s'agit pas de courir sur Internet et de programmer des tas de schémas, de traités, de qu'est-ce qu'on va chercher pour essayer de se sanctifier, ou d'écouter je ne sais quelle émission, ou passer des heures à se faire rentrer des tas de trucs dans la tête, ou d'apprendre. Non, c'est simple. C'est dire oui au moment présent, donc à Jésus qui me demande quelque chose en moment présent, pour m'ouvrir à la grâce et laisser le Saint-Esprit travailler. Des fois ça fait mal, des fois ça fait pas mal. Des fois on ne sent rien du tout, parce que l'événement il est... Mais même si on ne sent rien, c'est pas pour autant que le Saint-Esprit ne travaille pas. Et je peux vous assurer, enfin moi, je vous parle, je le pratique, au fil des mois, on sent bien la différence. On sent bien que, je suis plus souple. Et c'est le but, plus docile, comme une corde au toucher du Seigneur. On est moins fermé quand on nous annonce moi qui suis supérieure et qui a appris ça, donc elles m'ont rechoisi pour 3 ans. Il y a de grandes joies, mais il y a aussi des grands soucis à porter. Il n'y a pas longtemps, je lui disais avant de me coucher à Jésus, C'est pas ma communauté, c'est la vôtre. Hein. Vous vous débrouillez. Et voilà. Et du coup, je m'ouvre à la grâce et le Saint-Esprit rentre et c'est lui qui fait le travail, quoi. Avant, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme je suis plutôt d'un tempérament vif et volontaire, eh bien, je remonte mes manches. Et puis, du coup, je me fais mal au dos parce que c'est moi qui porte la communauté. Ça marche pas comme ça. On s'ouvre à la grâce et l'Esprit Saint rentre et c'est lui qui fait le travail. Hein. Parce qu'en général, comme je vous ai dit au début, le changement, c'est notre propre sanctification. Donc, quand vous avez des soucis dans vos familles, c'est pas oh, qu'est-ce que je vais faire, pour le changer. Non, c'est qu'est-ce que je vais faire pour me changer? Et quand je vais changer, peut-être que l'enfant va s'ouvrir, peut-être que le grand-père sera moins dur, etc. Mais en attendant, ça changera obligatoirement quelque chose. Voilà. Vous serez plus. La présence de Jésus qui vous habite, vous serez plus. Vous lui ressemblerez davantage. Et du coup, en face, c'est clair, il changera. D'accord? Donc voilà pour le moment présent. Après, il faut tenir le deuxième volet, ce qu'on appelle le couper court. Vous fermez la porte. Voilà, c'est les deux, couper court ou fermer la porte. Alors, dans un monde d'images, où en plus il y a beaucoup de bruit, eh bien, souvent on est très habité par tout ce qu'on vit. Hein. On a énormément de mal à faire silence à l'intérieur de soi, silence à l'intérieur de sa tête, dans ses pensées. Et pour certains, alors moi je ne les blâme pas, hein, parce qu'on peut très bien, on a le droit de le penser. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, Ah, mais je croyais que c'était bien de penser tout le temps à ce que j'allais faire ou à réfléchir sur tas de choses. Alors on se remplit la tête, quoi. Hein. Fou là là. Enfin moi, c'est fatigant et c'est surtout que c'est par là que passe le malin. Et donc ça, c'est lui, le grand ennemi de notre paix intérieure et de surtout de notre union à Jésus. Hein. Donc c'est les voies, les sens hein, qui lui sont libres, qui sont ouvertes celles-ci. La seule qui ne lui est pas ouverte, c'est la volonté. Hein. Il ne pourra jamais atteindre votre volonté. À moins de s'être donné au diable, qu'à ce moment-là qu'on perd sa volonté. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, il ne peut aller que sur les voies sensorielles, ça veut dire la pensée, les sens, tous les sens, mais surtout l'esprit et la pensée. Et du coup, ce qu'il va falloir faire pour tenir dans le moment présent, eh bien, fermer la porte à quelque chose qui nous chagrine ou à quelque chose qui nous tracasse. Ou à quelque chose avec lequel on se fait rêver, qui est complètement l'illusion, mais on en a besoin pour exister, peut-être, mais en attendant, on n'est pas dans le moment présent. Et on ne se rend pas compte comme ça, mais petit à petit, quand on a mis ça en place, ça peut devenir soit un mode de fonctionnement, donc on ne peut plus vivre sans avoir cette agitation à l'intérieur, et le plus grave, on campe le diable chez soi. Alors, dans son intérieur, mais dans sa vie de famille. Et du coup, on trouve des troubles relationnels qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On n'arrive pas à se comprendre les uns les autres. Dès que je parle, j'ai l'impression que je parle chinois et pourtant je parle français. On ne sait pas d'où ça vient. J'ai aussi rencontré des situations qui faisaient que tous les rendez-vous qu'elle pouvait prendre, la brave dame, tout le bénévolat qu'elle voulait faire, rien ne marchait. Par contre, elle était tout le temps dans une conversation. Alors après, on génère des angoisses. Hein. Et le troisième chose qui est grave, c'est qu'on peut déclencher des maladies psychiatriques. Ça, j'en reste persuadée. Alors, sans arriver à la psychiatrie, on passe d'abord par les troubles psychologiques et après on en arrive. Alors aujourd'hui, grand calme là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est voilà quoi. Et pourtant, on est. Tout le temps dans une activité cérébrale. Alors quand on veut s'arrêter dans son oratoire un petit quart d'heure, voire une demi-heure, comme nous l'invite nos saints fondateurs, eh bien c'est impossible de trouver le silence. Alors quand on parle du moment présent, ma mère, c'est impossible, je peux pas être, je suis, bah non, j'ai plein de trucs, oh je pense à plein, bah non. Alors moi, je suis la même, je suis pareille, hein. Je veux dire quand je suis à l'office, ah faut pas que j'oublie ça. Alors comme je vous ai dit, je pratique ce que je vous. Comme ça, j'en fais l'expérience et je sais que si ça marche. Hein. Et qu'est-ce que je fais quand je suis rendue à l'office? Ah, non, non, non. il y a justement, n'oublie pas ça, parce qu'il y a tas de choses à penser. Eh bien, non, non, non. Je suis à l'office, je me remets au moment présent, je suis à l'office. Par contre, voilà ce que je dis. Jésus, tu me le feras penser quand je sortirai de l'office. Vous me croyez, si vous voulez. La dernière fois, je me suis amusée à le faire, parce que moi, j'aime bien m'amuser. Et du coup, je l'ai fait en m'amusant. Et j'ai dit, hey, Seigneur, vous me faites penser, il ne faut pas que j'oublie telle chose à la sortie de l'office. Je sors de l'office, et le Seigneur est beaucoup plus grand qu'on pense. Je passe devant l'emploi qui correspondait à ce... Il ne m'a pas rappelé à la fin de l'office, mais devant l'emploi où je devais prendre l'objet à laquelle je devais penser au moment de l'office. Ah ! C'est ça qui m'est arrivé dans la tête. Voilà, si le démon peut rentrer dans votre esprit, utiliser ses voies de la pensée pour vous suggérer des images obscènes, des manques de charité, des tas de replis sur vous, des envies d'orgueil, etc., des pulsions, eh bien, Jésus passe aussi, bien sûr, les bons anges passent par nos pensées et notre esprit. Et là, c'est ce qu'a fait Jésus, il m'a envoyé une petite image, ou il m'a rappelé, n'oublie pas de passer voilà, à cet emploi-là, juste où tu franchis, là, il y a un truc à prendre. Voilà. Hein, et alors, je reconnais que c'est, comment dirais-je, il y a plusieurs tentations à ce moment-là. Soit on s'est dit, bah, attends, qu'est-ce qu'il me dit qui va me le rappeler ? Manque de foi, voilà. Mais c'est Saint-Pierre, quand Jésus lui dit, bah, viens, rejoins-moi quand il le retrouve quand il est pris dans la barque et la tempête. Et que Satan, et que Jésus s'approche, marche sur l'eau, Saint-Pierre veut le rejoindre. Et là, bah, c'est ma démarche, au moment du cœur, où je dis, ah non, Seigneur, faites-le-moi penser. Mais alors, quand Saint-Pierre va voir qu'il marche sur l'eau, il va prendre peur, et là, il va commencer à couler. C'est moi, quand je dis, mais attends, qu'est-ce qui me dit qui va me le faire penser ? Et là, je commence à douter. Donc, c'est clair, dans cette démarche, le doute est à proscrire, c'est sûr. Là, Et puis bien sûr, la tentation première, qui précède celle que je viens de vous évoquer, c'est comment dirais-je, de ne pas prendre conscience. Donc là, c'est vraiment une grâce à demander à la Sainte Vierge. Pour être plus sage à Jésus, c'est Marie qui nous donne à Jésus, donc c'est elle qui a ce travail à faire. Eh bien, de prendre conscience qu'on n'est pas dans le moment présent. Parce qu'on est tellement ancré dans ce système d'être partout mais jamais là où il faut, eh bien on ne se rend pas toujours compte qu'on a notre esprit qui est déjà parti. Donc c'est vraiment une grâce, une grâce à demander à Marie de prendre conscience qu'on est déjà ailleurs, on est devant la personne, on l'écoute, non, on les entend, mais on est déjà en train de préparer par exemple sa réponse. Ça arrive, ça, Et des fois, la personne qui est en face, elle le sent. Et puis, il y a des fois, la réponse, elle est complètement à côté parce qu'on n'a pas fini d'entendre la personne. Et puis là, tiens, mystérieusement, on ne se comprend pas. Voilà. Et je vous dis, vous campez démon. Voilà. Moi, je dis à mes sœurs, c'est mieux, vous faites encore mieux. Vous ouvrez la porte, vous l'invitez, vous allez chercher le café, les petits fours. Et c'est ce qu'on fait. On l'installe. Et le Seigneur dit... il ne vient jamais seul, il y a des suppôts derrière lui. Et je peux vous dire, c'est pas si facile que ça de les faire partie, parce qu'après on rentre dans un monde, et puis on rentre dans un mode de fonctionnement. Et du coup, on a besoin de toujours avoir du blé à moudre. Et donc c'est important pour avoir cette vie intérieure, c'est-à-dire dégager de soi. Ça peut être, vous savez, un retour sur soi, c'est pas obligatoirement toujours les soucis matériels, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais quand on avance dans la vie spirituelle, c'est envier la voisine, voilà. C'est comment dirais-je, vouloir exister. Donc on se fait, voir les meilleures places, gagner toujours plus d'argent, plaire. C'est bien de plaire à son époux ou à son époux, mais plaisons d'abord à Jésus à travers l'époux, et puis l'épouse. C'est d'abord Jésus qu'on vise. Donc voilà ce que je souhaitais évoquer avec vous, les deux choses, pour rentrer dans cette démarche oblative. Comme je vous le disais tout de suite, c'est en vue de se sanctifier, d'être davantage à la ressemblance de Jésus, d'avoir vraiment, de bénéficier de cette vie intérieure derrière, de cet amour qu'est le cœur de Jésus, mais pas égoïstement, ça veut dire pas pour soi, pas ma petite vie, moi et Jésus, c'est sûr qu'on en bénéficie de cette paix intérieure, de cette présence pas sensible, mais on se rend bien compte que on est quand même plus docile à l'Esprit Saint. On est nos défauts sur lesquels on veut travailler, eh bien, se gomment. Parce que voilà, il est réellement le grand sanctificateur, l'Esprit Saint. Mais c'est surtout toujours pour lui donner des âmes. Hein. N'oublions jamais l'objectif, l'intention qu'il vous a confiée quand vous vous êtes consacrée à son cœur. Hein. Vous vous êtes remise à lui, mais lui, il vous a confié la plus grande intention qu'il a, c'est les âmes, c'est le salut du monde, c'est le salut des âmes. Et je vous assure que là, on embauche. Hein. Il y a du travail. Hein. Et là aussi, c'est un aspect de la pastorale que j'avais évoqué. Voilà. Donc là, il ne faut pas avoir peur, hein, de dire, ah ben non, moi je fais un sacrifice pour le salut d'une âme. Je ne la connais pas, mais je n'ai pas besoin de la connaître. Ah, je la connaîtrai quand j'arriverai là-haut. Elle m'accueillera. Alors maintenant, je vous partage, je pense avoir le temps, cette belle histoire et qui va vraiment nous aider à prendre conscience de ce... Parce que ma vie comme la vôtre, elle est extraordinaire, mais dans son ordinaire. C'est l'amour avec laquelle je la vis que je la rends extraordinaire, parce que moi, je ne fais pas de grandes choses. Hein. J'essaie de lui donner de l'amour au maximum, mais dans des tâches toutes simples. Hein. Je balaye, j'écoute mes sœurs, c'est sûr, mais je veux dire, voilà, je fais fonctionner la maison. Enfin, je veux dire, je répare les robes, j'étends le linge. S'il y a besoin, on a eu une très grosse récolte de cerises, ben, je suis allée ramasser les cerises. On a fait des bocaux, ben voilà. Enfin, voilà mon quotidien, mais que j'aime beaucoup, hein, parce que je peux le rendre extraordinaire. Alors voilà. Vois mon grand bateau de pêche. J'ai durement manié la hache pour abattre les grands sapins là-bas, dans le champ glacé où les troupeaux de rennes viennent brouter le lichen et l'écorce tendre. Ah, c'est un rude ouvrage, crois-moi ma fille, de transformer le sapin blond, ce bois qui pleure à chaque coup, en un bateau dur à la vague, docile au vent, incorruptible à la saumure. Il y a un petit refrain qu'elle écrit. Active la navette, ma fille, et noue le chanvre, et tire et serre chaque maille, car il me faut un filet neuf. Mais je voudrais un grand filet, car après Noël, je m'en vais pêcher avec ton frère Axel. Hâte-toi, ma fille, profite du long jour d'été. Par Saint-Olaf, c'est une fête que d'être saisie au travail par le soleil de minuit. Mets donc à ce labeur, ma fille, tes doigts menus et déliés, puis tes yeux brillants comme givre, car j'ai besoin d'un filet fin, joins ton cœur, ma Etta, c'est sur un filet fort que je compte sans une faille. Active la navette, ma fille, et noue le chanvre, et tire et serre chaque maille, car il me faut un filet neuf. Etta, donc la fille, fit donc un filet neuf. Elle y mit ses doigts, sans doute, mais ses deux yeux, pour bien souvent, car ils suivaient distraits, le lourd vol gris des oiseaux émigrants vers les îles. Quant à son cœur, encore bien moins, car il suivait léger, léger le vol des rêves s'enfuyant. Nul ne sait bien jusqu'où. Or, Etta glissa dans l'ouvrage ce qui n'y doit jamais passer. Elle y glissa, l'un tirant l'autre, des doutes et des fraudes. Pourquoi tendre si fort ce chanvre rêche? Pourquoi y écorcher mes mains? Mon père veut-il du sang dans chaque nœud? Sur mille et mille points de ma résille, qu'importe un petit fil qui baille? Et il n'y doit pas passer de phoque ou de baleine, pas même de bien gros poissons. Mon père va pêcher le hareng ou le sprat, léger butin pourtant d'effort. Un soir d'hiver, le bateau leva l'ancre. Il faisait noir au ciel, sur la mer et dans les cœurs. Etta, debout sur la jetée, fixait des yeux l'arche fuyant comme un fantôme. Elle lançait quelques soupirs, pensant aimer son père, mais pas assez pour lui offrir un peu de sang caché dans son travail. Quant au pêcheur, le front tourné au vent, même au naufrage, il emportait sur sa large épaule un filet neuf déjà gonflé d'espoir. Allume au plus haut mât, Axel, mon fils, la lampe à huile de baleine. Balance-la longtemps dans le brouillard. Etta verra du rivage une étoile dans la nuit. Ainsi, elle saura, car le ciel n'en montre nulle part, que son vieux père lui dit merci. 3 jours passèrent. Disons plutôt que, sans soleil, c'était 3 veillées de la même et lugubre nuit. Hardis les pêcheurs de harengs, cria enfin Axel en se penchant sous la vague sombre comme suit. Je vois scintiller des écailles d'argent. Or, dans sa joie, l'enfant se courba trop. Il glissa par-dessus bord et disparut dans l'eau. Pour un pêcheur, c'est un baptême de tomber dans un filet plein, pensa le père en tirant sur la corde. Heureusement que le filet de Maïta est un filet sans nul défaut. Mais soudain, les deux mains crispées, mains qui n'avaient jamais failli, devinrent molles puis tremblèrent. Le filet remontait léger. Sur 1000 et 1000 points de la résille, un nœud mal fait s'était rompu. La fileuse ne vit point revenir son frère, Axel, mais le vieux père, seul, sombre et courbé. « Ma fille, qu'as-tu fait de mon fils, qui est aussi ton frère ? Étais-je sa gardienne ? Apprends qu'il a péri en mer, car j'ai tenté de le pêcher dans un filet que je croyais sans nulle faille. Hélas, hélas, gémietta, si j'avais su avec quel amour, j'aurais serré chaque nœud. » Voilà. Oui, hein, c'est poignant, hein. Parce qu'on peut tous se dire, bon, alors, quand je travaille, voilà, avec quel amour je peux faire les choses. Je suis désolée, on est responsable de nos actes, hein, et je dirais la moindre petite chose. Et quand on essaie de donner le plus d'amour possible, mais vous êtes invité à la même chose. Eh bien, d'ouvrir une porte et dire à Jésus, je t'aime, et de passer, Seigneur. Je ne le vois pas, hein, mais je sais qu'il est là. On sait qu'il est là. Donc, je le laisse passer et je passe après. Alors, je peux très bien ouvrir la porte sans dire, Jésus, je t'aime, c'est sûr. Mais je crois qu'en disant, Jésus, je t'aime, en passant une porte, il y a un retentissement de cet acte qui est, ouvrir une porte. On en ouvre combien, surtout dans le monastère ? Ben justement, ça fait beaucoup d'actes d'amour. Et du coup, ça a un retentissement sur le monde, ça. Hein ? Et là, évidemment, c'est l'histoire un peu forte, évidemment, la perte du fils. Et puis, et j'aime beaucoup cette histoire de sang, hein, qui reprend le sang de Jésus dans son agonie, voilà. Et je veux dire, est-ce que dans mon travail, je mêle mon sang au sien ? C'est-à-dire, est-ce que, voilà, des fois, je peine, hein, c'est sûr, dans mon travail, quoi. Mais il n'y a pas que le travail, il y a aussi l'accueil de mon mari, de mes enfants, de mes grands-parents, enfin je veux dire, ou même ma solitude, enfin je veux dire, comment je la vis, quoi. Toujours, est-ce que c'est l'expression de la volonté de Dieu ? Voilà. Parce que c'est sûr, quand il y a quelque chose qui nous plaît, voilà, il n'y a aucune difficulté. Les enfants qui arrivent, on se met en quatre, on prépare les lits, on dresse la table, on prépare un bon gâteau. Maintenant, quand c'est le grand-oncle qui que j'ai du mal à supporter, est-ce que je vais mettre la même ardeur, mais je sais que la manière dont je vais recevoir ce grand-oncle aura un retentissement pour le salut d'une âme. Voilà. Donc comment je vais vivre ? Est-ce que je le vis comme l'expression de la volonté de Dieu dans le moment présent ? En acceptant de taire, hein, tout ce qui va me passer par la tête, où je vais peut-être murmurer, juger ce grand-oncle, autant couper court et regarder mon cœur tout à Jésus pour qu'il me transforme et que je lui ressemble un peu plus. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager et vous commanderai, je vous exhorter à vivre pour plaire, hein, toujours pour consoler le cœur de Jésus, qu'on fêtera, hein, le 28. Voilà, je me tiens, hein, si vous avez des questions sur le sujet. Je voudrais quand même confier, je ne sais pas si je vais être en avance. Oui. Je voudrais confier, à votre prière, Monsieur Housset, hein, qui est notre jardinier, un des jardiniers, à qui on a découvert un cancer. Il a des rayons. Donc c'est un cancer des os, on va dire, c'est plus ou moins à l'épaule qu'il doit subir. Donc c'est un peu particulier parce que ils l'ont fait traîner dans les diagnostics. Il a quand même fini par savoir qu'il avait ça, mais de semaine en semaine, voilà, sans des examens, sans dire quoi que ce soit. Donc ça a sûrement été dur à vivre. Mais voilà, donc c'est un garde-honneur, donc de le prendre dans votre prière. Voilà, on confie au cœur de Jésus, on dépose dans son cœur et puis on lui donne de l'amour. Je ne demande pas obligatoirement des chapelets, hein, mais voilà, de prendre dans votre quotidien, dans tous les actes d'amour qu'on fait, bah, là, Seigneur, voilà, je te confie Monsieur Housset, parce que c'est sûr qu'il est pour sa famille et puis pour lui-même, pour le rayonnement qu'il peut avoir. Après, la publicité que vous êtes amené à faire, vous allez bientôt, c'est la dernière rencontre, hein, et juillet, août, nous n'en avons pas, c'est les vacances. Mais par contre, vous serez amené à rencontrer des personnes, peut-être que vous prendrez un temps de repos. Voilà, n'hésitez pas, comme au Nouvel An, donc, à glisser dans vos courriers, de faire part de la garde d'honneur. Moi, je reçois toujours des inscriptions, mais si je reçois des inscriptions, c'est qu'il y a des bulletins d'adhésion qui sont déposés dans les paroisses ou donnés de main en main. Toujours pareil, avec le même zèle, la même audace, de croire que la personne à qui vous allez donner le tract, eh bien, juste avant, elle demandait au cœur de Jésus de lui donner un signe par rapport à ce qu'elle vivait. Et vous arrivez en vous disant, est-ce qu'elle va me lancer une tomate ou est-ce qu'elle va m'accueillir? Eh bien, et souvent c'est ça. Hein. Et souvent on dit, oh non, je vais passer pour ridicule, ça c'est ringard, enfin non, je vais pas le donner quoi. Et je préfère le déposer sur la table de presse au fond de la chapelle ou au fond de l'église. En plus, je vais pas trop en parler au curé parce qu'il est pas du tout Sacré-Cœur. Non. Le paquet ira à la poubelle. D'une part, donc on en parle au curé, hein. Et puis c'est un moyen de faire de la posa. Alors, c'est sûr, hein, que, comment dirais-je, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le cardinal Zara aussi, puis bien d'autres qui disent que, mais oui, c'est de la part des prêtres qu'on rencontre le plus d'hostilité par rapport à la dévotion au Sacré-Cœur. Les laïcs il y a un retour, hein, à la dévotion. Et donc, ben, y a un travail à faire, mais il a choisi Sainte Marguerite Marie. Et pourquoi il n'a pas choisi Claude la Colombière, qui était jésuite, et qui était bien placé pour faire reconnaître une dévotion et pourquoi pas et la fête pour l'Église universelle? Non, il a choisi une petite visitandine cachée dans son couvent. Et ben voilà, donc des fois il choisit l'un d'entre vous pour aller parler au curé de la dévotion au Sacré-Cœur. Voilà. Et donc n'hésitez pas à prendre des tracts pour en faire part autour de vous, parce qu'on a tous la grâce d'en faire partie et de se rendre compte, hein, de tous les fruits dont on bénéficie d'être dans cette famille qu'est le cœur de Jésus. Donc il faut en parler autour de soi. Et puis j'indique aussi que le site actuellement, depuis quelques temps, peut-être un mois déjà, on ne peut pas entendre les formations. Parce que en somme, l'hébergeur change, donc c'est assez compliqué, comme toujours. Et bien, donc c'est dur dans le temps. Et qu'est-ce qu'on va dire après la formation? C'est volonté de Dieu. Donc on fait ce qu'on peut, et puis et surtout que ça demande une énergie et un temps, hein, qu'on n'a pas toujours. Donc c'est un petit peu. Et je ne sais pas quand est-ce que ce sera, comment dirais-je, réparé. Parce que la proposition que nous on avait par l'ancien hébergeur ne propose plus la même chose, donc c'est compliqué au possible, mais ça va finir par s'arranger. Mais voilà, accueillir, c'est des contraintes pour vous sûrement, mais du coup faut se déplacer pour participer, pour entendre la formation, puis voilà, voilà, c'est une petite chose qui nous est invitée à accueillir comme la volonté de Dieu signifiée. Et puis se dire, ben voilà, je vais m'y prendre autrement, quoi. Et en disant oui à Jésus, eh bien, on sauve une âme à l'autre bout, ou même des fois dans sa propre famille. D'accord? Voilà la démarche. Voilà, je vous libère. Oui? Alors, la messe est à 9h30. Bon, voilà, vous pouvez assister aux Laudes, hein, qui sont aussi les Laudes de la Solennité du Sacré-Cœur. Le portail de la rue est ouvert autour de 8h. La chapelle, par contre, pour la sécurité, est ouverte à 8h40. Et les Laudes commencent à être chantées à 9h50, premier coup 9h50, 9h55. Et puis la, comment dirais-je, la 8h50, pardon, 8h50, 8h55, les Laudes, et 9h30 la messe. D'accord. Et puis à la fin de la messe, le prêtre, donc l'abbé Harel, expose le Saint-Sacrement. Et puis devant, on dit l'amende honorable.
Et c'est une prière.
Oui, c'est une prière. Hein. Et puis toute la journée, la chapelle est fermée entre midi et deux. À cause qu'on n'a pas de personne à l'extérieur pour surveiller. Et avec tout ce qui se passe, on est, même s'il y a, voilà, il y a l'ange du monastère, mais ceci dit, ça n'exclut pas la prudence. Donc on ferme entre midi et deux, et on réouvre pour le nonne à 2h, hein, un petit peu avant 2h. Et donc là, vous pouvez venir faire une visite au Saint-Sacrement, si vous voulez, quoi. Voilà. Voilà, donc je rappelle, hein, comment dirais-je, donc on gagne aussi l'indulgence dans les conditions de l'Église, donc il faut être en état de grâce, donc d'où d'aller se confesser dans la semaine, quoi. Hein. C'est mieux. Mm. C'est, en tout cas, c'est se priver de grâce, de ne pas aller se confesser. Voilà.
Pour le 23,
c'est pareil.
Pardon ? Pour le 23.
Oui, la messe, toujours les laudes, 8h50, 8h55, et la messe 9h30. Nous, c'est ça, pour l'instant en tout cas, la messe est toujours à 9h30, que ce soit le dimanche, en semaine ou une solennité. Hein, toujours. Et il y a éventuellement une fois l'an, au moment de l'association des amis, ou parce qu'on est quand même, enfin les prêtres, on n'a pas d'aumônier, on bénéficie toujours des prêtres de l'Immaculée qui viennent charitablement nous célébrer la messe. Donc on ne fait pas célébrer deux messes dans la journée. Comme il y a une messe de célébrer avec l'association, en général celle du matin n'a pas lieu. Voilà. Et oui, sinon c'est toujours 9h30. Hein, voilà. Et donc de prendre du temps pour le cœur de Jésus, pour lui dire que vous l'aimez au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas, qui l'ont oublié. Hein, c'est vraiment dans cette démarche, je le crois, donc voilà, le Seigneur m'exauce, quoi. Il ne demande que ça, le Seigneur, d'exaucer, quoi. Oui, voilà, exactement. Ouais, ouais. Ah oui, il faut vraiment, tout repose sur la foi, hein, faut vraiment, c'est pas pas de l'ordre du sensible, il est bien possible, hein, enfin, c'est pas une en général, voilà, enfin, on passera peut-être le temps devant le Seigneur, on sera pas toujours dans la paix, il y aura des soucis, et puis on sera bête, même, on luttera contre le sommeil parce que la journée la veille aura été dure, etc. C'est pas ça qui regarde le Seigneur, il y a quelqu'un qui rentre, voilà, elle vient pour moi. Après, si on s'endort, ben voilà, ben on s'endort. Le Seigneur a permis qu'on s'endorme. Et puis on voit il verra que la personne passe son temps à couper court à toutes ses pensées, parce que quand on s'arrête dans le silence, tout remonte. Ah, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Ah, puis j'ai dit ça, ah, puis ça, ah, puis elle m'a fait ça. Et ben voilà, pendant toute l'heure où vous serez devant le Saint-Sacrement, vous passerez votre temps à couper court ou à fermer les portes, le Seigneur, il sera là. Oh, comme c'est beau, elle me choisit. C'est ça. Hein? Parce que je suis désolée, on se fait du bien à dire, oh oui, en se racontant les histoires, enfin je veux dire, que nous on fait, enfin que tout le monde fait, enfin je veux dire, quand on met pas ça en place, on se continue le dialogue avec la voisine qu'on a eue, qu'on voit il y a 5 minutes, et puis, et au final on finit par lui couper la tête, hein, d'accord? Donc voilà, donc en tout cas, belle fête du Sacré-Cœur, en grande union de prière, un bel été, peut-être ensoleillé, on n'en sait rien, mais comme le Seigneur voudra, et puis un temps de repos, en tout cas dans le cœur de Jésus, et puis donc à la rentrée, voilà.
Et puis là, la rentrée.
Ah, très bien, alors là, je vais vous dire, moi, vivant le moment présent, je ne suis plus rendue au septembre. Alors, le 28 septembre. Il y a des tracts, hein, vous pourrez.
C'est l'année prochaine, 28.
Oui, non, 2019.
Même,
oui, toujours le même. Oui,
je
oui.
Pense que je
vais oui. Les dates sont données sur l'année. Hein, parce que pour l'organisation, c'est mieux quand même. Voilà. Donc voilà, bon retour. Et puis, belle fête de la Très Sainte Trinité. Ah oui, pardon. Ouais. Oui, oui, oui. Après, il faut m'en faire la demande par mail.
Voilà.
Et puis, je peux les envoyer
mais
après.
Vraiment, ça vaut la peine, ouais. Parce qu'ils sont vraiment très bons. Je les ai priés, vraiment, ça vaut beaucoup. Et même ils ont fait pas tout.
Oui, oui, oui. Bah, ouais. J'ai eu de la demande, hein, c'est quand j'avais envoyé, j'ai eu de la demande. Ouais.
Faire des stations, faire des
Après, c'est sûr hein, que le chemin de croix, c'est pas. Enfin, nous. On le fait, hein, le chemin de croix, ça fait partie des prières qu'on est amené à faire. Mais c'est sûr que c'est une dévotion, c'est une prière qui, à mon avis, a disparu. Hein. Mais alors, c'est sûr qu'après, dans nos églises, hein, il y a aussi les stations hein, du chemin de croix. Et là aussi, hein, je pense, j'ai rien contre tout le mouvement d'évangélisation, etc. Moi, je le vois très bien, hein, qu'on essaie de la réévangélisation qu'on entend. Mais je crois que quand on rentre dans une église et qu'on voit quelqu'un qui s'agenouille devant chacune des stations autour des murs hein, de l'église, et que ça pose question, quoi. Et plus que quand on rabâche, enfin, je dirais, voilà, c'est. Pour moi, l'évangélisation, c'est avant tout, c'est le mystère de la croix. Hein. Tant qu'on ne vivra pas le mystère de la croix, eh bien, on peut parler, bah, on remplit les têtes, hein, mais personne court après se confesser, quoi. Par contre, vous priez le chemin de croix, vous aurez peut-être du monde, moi, une personne en plus, à se confesser. Ça, moi, j'y crois, ça. Hein. Mais remplir les têtes, les gens, si, on a l'impression sur le moment d'être un peu plus intelligent. On a une gourmandise intellectuelle, on s'est fait du bien intellectuellement. Mais, je veux dire, après, est-ce que le temps que ça descende dans le cœur et que ça transforme nos vies, je suis désolée, il faut une oblation derrière, il faut le mystère de la croix derrière. Moi, aujourd'hui, hein, c'est clair, mais de tout temps, parce que Saint-Louis-Maillemont-Fort disait « pas de croix, quelle croix ?» Et quand il arrivait dans une paroisse, qu'est-ce qu'il faisait ? Il campait la croix, et puis, il arrivait, évidemment, parce qu'il était cloué à la croix, il n'y a qu'à regarder sa vie, hein. Et bien, comment il vivait la volonté de Dieu, quand on a démoli son chemin de croix, hein, il n'y a pas eu un ouf, quoi, il n'y a rien eu, quoi, il y a eu « merci Jésus », quoi. Donc il était complètement, il ne l'a pas dit de cette manière, mais il n'a jamais rien dit, il ne s'est jamais opposé à la destruction du chemin de croix. Le calvaire de Pontchâteau, il sait absolument, parce que c'est pas celui qui l'a construit, hein. Il a été démoli le premier. Et il a rien dit. Hein. Et je suis désolée, ça convertit. Hein. Il était complètement assimilé au mystère de la croix. Et quand il passait dans une paroisse, bah, tout le monde pleurait et ça courait se confesser. Donc ça interpelle quand même, quoi. Donc oui, ça peut être une idée de reprendre la dévotion du chemin de croix. Ah oui, bah oui, enfin je veux dire après, toujours voilà, de vivre cette communion avec Jésus sur la croix.
Je vais dire quelque chose, parce que c'était le français de quelqu'un. Est-ce que, par exemple, on a choisi une heure de
présence?
Bon, alors là, c'est pas parce que, par exemple, on n'arrive pas à la faire. J'ai choisi 8 heures.
Oui.
Mais j'arrive pas forcément à la faire, je suis assez inconstante.
Ouais.
Est-ce que je peux la faire après à 20 heures? Non, je peux pas la faire à 20 heures.
Oui, si. Donc, comme on dit, on peut suppléer au moment où on y pense. C'est-à-dire que si votre premier rendez-vous, c'est 8 heures, il s'avère qu'à 8 heures du matin, hop, ben, vous n'avez pas réussi à la faire, vous la ferez à 20 heures. L'essentiel, c'est de la faire. Voilà.
Est-ce qu'on peut aussi, par exemple, dans la journée, je l'offre à cette heure-là?
Ah oui, bien sûr, vous pouvez en faire plus. Oh, oui, tout à fait. C'est une école, hein, c'est une éducation. Il y a un rendez-vous, et puis après, voilà, c'est ça. Le but, c'est comme nous, en somme, c'est d'être présent le plus qu'on peut dans notre journée à Jésus. C'est pour ça qu'on se tient dans le silence. Mais c'est vrai que si vous avez une vie de silence, et même si vous avez, parce que notre saint fondateur, il était tout le temps sollicité en tant qu'évêque, il disait bien, c'est parce qu'il y a du bruit autour qu'il y a du bruit à l'intérieur. Mais par contre, il y a un travail à faire, parce que souvent le bruit à l'extérieur rentre à l'intérieur. Bon, c'était Saint François de Sales, hein, docteur de l'Église. Donc il avait l'agitation, mais il était toujours. Il dit hein, qu'il n'était pas moins d'un quart d'heure sans se rappeler la présence de Jésus. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu des filles d'horizon pour la réforme de l'Église. Voilà. Ah, c'est pas par des lois qu'on va réformer l'Église. Non, c'est par l'offrande de nos journées, unie à Jésus. C'est ça la véritable réforme que l'Église, je l'espère, va vivre. C'est ça la véritable réforme. Voilà. Et ça évite hein, à des prêtres de chuter. Voilà. C'est clair. Ça, c'est là qu'on est attendu, quoi. Et tout gît sur j'y crois ou j'y crois. Tout ça. Donc j'ouvre une porte, je fais la cuisine, je veux dire, voilà, est-ce que je fais ma cuisine voilà, en pensant à rien si ce n'est à moi, ou je pense à Jésus en épluchant mes pommes de terre, et puis de temps en temps, bah, je dis Jésus je t'aime, ou je dis un ave, ou c'est quand même pas... Et ça, il nous faut retrouver ça, quoi. Vous savez, c'est ce que faisaient nos grands-mères, hein. C'est Saint François de Sales qui dit ça. Il aime justement ces villageoises hein, qui regardaient et qui comptait les heures, qui priait ces heures qui s'écoulent, voilà, et regardait le clocher. Enfin, on était tendus vers la présence de Jésus, quoi. Voilà. C'est pas parce que c'est d'un autre âge que c'est dépassé. Je veux dire, qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est Jésus qui nous fait vivre. Hein? C'est ça. C'est lui. On termine avec les invocations. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez une petite prière au Sacré-Cœur. Au cœur divin, qui nous avez montré sur la croix l'excès de votre amour et de votre miséricorde, en vous laissant ouvrir pour donner une entrée aux nôtres, recevez-les donc maintenant, en les attirant par les liens de votre ardente charité, pour les consumer par la véhémence de votre amour. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur,
priez pour nous.
Saint-Joseph,
priez pour nous.
Saint-Jean,
priez pour nous.
Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal,
priez pour nous.
Saint-François d'Assise et Sainte-Marguerite Marie,
priez pour nous.
Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini, Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes,
priez pour nous.
Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernou,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bon retour. Voilà, merci. Merci.